Le référentiel d'éducation prioritaire nous dit bien coopérer utilement avec les partenaires. Et donc, c'est toute la question qu'on va essayer de discuter ensemble, c'est quelles sont ces coopérations utiles et qu'est-ce qui peut les rendre un peu efficaces. Vous dire aussi très rapidement, puisque vous les avez récupérées dans les ressources qu'on avait mis à votre disposition, tous ces sujets-là, on les aborde depuis 2007 dans un séminaire que conduit le Centre Alain Savary qui s'intitule « Questions vives du partenariat et réussite éducative ». Et où je pense que sur ces questions, vous allez vraiment retrouver un certain nombre de ressources qui peuvent vous être utiles. Donc quand je suis arrivé en 2012, j'ai repris en main ce séminaire et on a travaillé une première année sur la question des coopérations autour du projet éducatif sur les territoires en politique de la ville, donc avec des acteurs locaux. La deuxième année, on s'est dit que la question se posait aussi partenariat pouvait soutenir ces coopérations locales. Et on a travaillé plutôt avec des pilotes au niveau départemental, académique, régional. Comment on peut installer de la coopération entre les institutions à ces niveaux-là pour soutenir les coopérations locales? Donc c'était en 2014. Et puis l'année dernière, on a essayé de spécifier un peu notre objet et on a essayé de se centrer sur ces questions d'accompagnement à la scolarité, qui est à la fois une vieille question, qui est un peu concomitante de l'histoire des ZEP. Et en même temps, je suis pas sûr qu'en 35 ans, on ait réussi à régler ces questions. Voilà. Parce que peut-être, une des difficultés, c'est de réfléchir à ce qui pose problème. Et tant qu'on pose pas la question des devoirs, est-ce qu'on peut vraiment poser quel est le problème de l'accompagnement à la scolarité? Voilà, donc ça fait partie des ressources que vous avez pu avoir. Je ne vais pas insister lourdement là-dessus parce que ça a été abondamment traité par nos collègues tout à l'heure. Mais du coup, dès qu'on parle de partenariat, on a un certain nombre de métiers de l'institution scolaire qui sont, et encore, ils ne sont pas tous là. On pourrait rajouter les assistantes sociales au collège, les infirmières, enfin, tous les métiers encore de l'éducation nationale ne sont pas présents sur cette diapo. Et puis après, on va rajouter un certain nombre de partenaires, des institutions, des métiers. Et moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que quand on travaille sur les partenariats en ZEP, on a tendance à penser à la coopération avec un certain nombre de métiers liés à la politique de la ville, mais que la question de l'interinstitutionnel est clairement posée déjà dans l'organisation normale et ordinaire de l'école. Ça fait très longtemps qu'il y a des ATSEM dans les écoles maternelles qui relèvent de la direction de l'éducation des municipalités. Est-ce que on a soutenu la collaboration entre ces deux institutions pour faire coopérer utilement enseignants et ATSEM? À certains endroits, oui, peut-être pas partout. On a plusieurs fois parlé pendant ces deux jours de ce qui pouvait outiller ces coopérations et dépasser les préjugés, les conflits, les rapports de pouvoir des uns et des autres. Il nous semble, et ça pour l'avoir travaillé en séminaire avec les professionnels depuis maintenant 4 ans, que c'est vraiment à partir du moment où on cerne l'objet sur lequel on a à travailler, qu'on arrive à avancer. Et cerner l'objet, c'est à la fois travailler sur les représentations et la manière de s'y attaquer des uns et des autres, mais c'est aussi avoir des outils pour se décentrer, et il nous semble qu'un certain nombre de travaux de recherche peuvent aider à ça. Quand on parle des difficultés éducatives, il y a un certain nombre de travaux de recherche qui peuvent outiller la discussion entre partenaires. Donc une des conclusions du séminaire de 2012, c'était ça, c'est parce que la compréhension des difficultés éducatives, scolaires, relationnelles, sociales par les partenaires dépasse peu à peu les a priori de chacun et qu'émergent les processus qui construisent ces difficultés, que l'action partenariale peut élaborer un projet commun. Si ces élèves de collège y perturbent et fichent le bazar à la sortie du collège, quels sont les processus qui ont amené à ça, si on veut pouvoir s'y attaquer? On entend beaucoup parler dans ces histoires de partenariat éducatif d'une approche globale. Mais une approche globale pour répondre à quel problème? Je vais vous les balayer très très rapidement. J'ai bien conscience que c'est succinct, mais ça me semble au moins ramener la manière dont parfois on a tendance à aborder un peu trop vite les problèmes sans se questionner sur la nature des difficultés, pas simplement sur l'origine. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on collabore pour avancer sur les difficultés des enfants, pour les socialiser, pour les épanouir, pour faire des citoyens, pour faire réussir à l'école, pour lutter contre le décrochage. Vous voyez bien que dans toutes les injonctions des politiques publiques et des dispositifs, ces choses-là, elles ne sont pas très très claires. Et il nous semble qu'une des choses à clarifier, pour savoir ce qu'on entend quand on veut parler de communauté éducative ou de travail éducatif, qu'il y a peut-être une question centrale à clarifier, c'est les continuités et les ruptures entre apprendre dans la vie et apprendre à l'école. Et ça, il nous semble que ça nous évite assez bien de psychologiser, moraliser ou culturaliser les problèmes. Je passe assez vite. Même chose pour les familles. Les familles, il faut qu'on fasse des choses avec les familles, mais pour faire quoi et à quelles conditions? Et vous voyez bien que dans les discussions qu'on a avec les différents professionnels, il y a des choses qui sont dans le non-dit. Est-ce qu'il faut les faire venir pour les éduquer parce qu'ils feraient mal leur boulot de parents? Est-ce qu'il faut les faire venir pour qu'ils contrôlent leur enfant à distance quand il est en cours? Ça, on est souvent interpellé en tant que parents quand on a des enfants en collège. Il y a du vécu, là. Pour qu'ils entérinent les décisions de l'institution scolaire? À quel jeu on joue avec eux? Ou pour les reconnaître? Là aussi, je vais aller très vite. Il nous semble qu'une des personnes qui nous aide à penser ces questions, c'est le travail du sociologue Pierre Perrier, dont vous trouvez notamment sur le site de Centrale Savary une de ses interventions qui nous semble clarifier un peu les choses, qui nous explique d'où vient cette conflictualité dans la relation entre l'école et les familles, et qui nous donne quelques pistes pour peut-être mieux coopérer avec eux. Je ne m'attarde pas là-dessus. Il y a des problèmes à régler aussi du côté des professionnels et des institutions. Et là aussi, on a un certain nombre de chercheurs, dont Françoise Lantôme, qu'on cite ici régulièrement et qui intervient régulièrement ici, qui peuvent nous aider à penser ça, notamment dans ce qu'elle nous a dit à une formation, qu'il faut peut-être mieux soutenir l'existant plutôt que de prescrire l'idéal. Dans une intervention où elle parlait du travail collectif, est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est du travail en plus? Et du choc entre les groupes professionnels. Une autre ressource aussi pour nous importante, c'est le travail que nous a présenté Véronique Laforêt, que vous retrouvez aussi sur le site du Centre Alain Savary ou dans le livret du séminaire 2014, qui nous aide à penser l'articulation entre les institutions et les dispositifs. Et un certain nombre de choses qui peuvent éviter, enfin, qui permettent aux dispositifs d'agir, y compris sur le fonctionnement ordinaire des institutions. Donc, un dispositif vise à faire face à l'urgence, à dépasser les contraintes organisationnelles. Vous vous rappelez de ce qu'on disait ce matin avec Monsieur Jeannot? Les politiques publiques, de plus en plus, on a des programmes institutionnels qui ne répondent plus à un certain nombre de problèmes. Et donc les dispositifs, ils ont été inventés pour essayer de répondre à ces problèmes. Mais est-ce qu'ils aident vraiment les institutions à régler ces problèmes? Ou est-ce qu'ils sous-traitent ce que les institutions n'arrivent pas à faire? Et une des conditions pour Véronique Laforêt que ces partenariats soient effectivement au service de s'attaquer aux problèmes. Et vous noterez que les professionnels de terrain sont en haut de son schéma et que donc les autres sont en soutien. Pour qu'il y ait du partenariat et de la coopération utile qui se fasse entre professionnels de terrain, enseignants, animateurs dans une école primaire par exemple, il faut qu'il y ait du partenariat qui s'instaure au niveau des directions de service, il faut qu'il y ait de la collaboration qui s'instaure au niveau des responsables institutionnels et politiques. Et que chacun des niveaux prenne le temps de retraduire le prescrit et les problèmes. Et évidemment, et ça c'est les flèches verticales dans ce schéma, il faut que ces collaborations aux différents étages, elles puissent circuler et que les niveaux institutionnels s'intéressent aux problèmes de terrain et se donnent de moyens d'observer les problèmes de terrain pour pouvoir en faire des objets de travail et de réflexion à leur niveau. Vous voyez bien que ces conditions, elles ne sont pas simples à remplir. Mais au moins, ça donne, je pense, quelques guides pour orienter l'action. Et en tant que coordonnateur, vous voyez bien à quel niveau on se situe. Et voyez bien quel rôle on peut jouer dans ce schéma-là. Est-ce qu'on facilite les circulations verticales? Et est-ce qu'on institue au niveau horizontal, au niveau des métiers intermédiaires des différentes institutions sur les dispositifs partenariaux, cette réflexion sur les problèmes et les difficultés de terrain des enfants et des professionnels? Ceux qui sont lyonnais sont peut-être à la Biennale de Lyon cette année. Moi, j'ai flashé sur cette installation d'une artiste qui s'appelle Otobong Nganka, qui s'appelle What in you go do, what are you going to do? Et ce qu'elle explique, vous voyez, c'est des blocs de béton. Et dans chacun de ces blocs de béton, il y a des grosses cordes qui sont prises. Et tout ça, c'est emmêlé. Et sa question, quand elle explique son travail, pour elle, c'est comment on fait bouger tout ça? Et elle explique que nous sommes dans un monde où les choses que nous voulons changer sont si intimement enchevêtrées que cela réclame non seulement un effort collectif, mais aussi une véritable pensée collective avant de pouvoir aller de l'avant. Pour faire bouger ce machin-là, il ne suffit pas de s'y mettre tous et de faire un effort au bon moment, parce qu'on risque juste de s'en mêler les pinceaux et de ne pas faire bouger grand-chose. Si on veut arriver à faire bouger ça, il faut arriver à penser et à coordonner l'action des uns et des autres en amont. Ben quelque part, je trouve que c'est une bonne image de l'action locale, éducative et de ce à quoi on est confronté. On a plein de choses à faire bouger, mais c'est très compliqué de les faire bouger. Alors, dans les choses compliquées, évidemment, il y a la question de l'empilement, de l'enchevêtrement des dispositifs. Hein, vous voyez la longue liste. Avec toujours la question de savoir est-ce que ces dispositifs, c'est juste un guichet où on va chercher des financements, ou est-ce que c'est des dispositifs où on essaie de penser l'action collective? Donc du coup, se pose la question des instances de pilotage local en amont des dispositifs. Est-ce qu'il peut y avoir de la réflexion qui ne soit pas uniquement au comité de pilotage du PRE ou au comité de pilotage du CEL, ou est-ce qu'on peut avoir... La question se pose de l'articulation entre ces dispositifs et des coordinations de coordonnateurs. Une des premières choses qu'on a essayé d'instaurer, moi, quand je suis devenu cordozep avec les gens à Saint-Priest, ça a été une coordination des coordonnateurs. C'est LSPD, PRE, Enfance-Jeunesse, j'en oublie, ASV. Voilà. Et un des outils que je vous proposerai pour terminer est issu de cette réflexion. Et enfin, et ça me semble central, qu'on soit sur la réflexion en interne ou sur la réflexion partenariale sur un territoire, c'est la question de l'articulation entre dispositifs spécifiques et droits communs. Est-ce que les dispositifs nous aident à repenser peut-être nos manières de faire ordinaires? J'ai souvent l'habitude de citer, et il y a eu un reportage fait par notre collègue Marie Odile sur un lieu passerelle d'accueil des parents dans une école maternelle. Dès le départ, ce dispositif, on a pensé un accompagnement des enseignants de l'école à côté de la mise en place du dispositif. Se pose en ce moment la question de la pérennisation de ce dispositif parce qu'il y a des financements expérimentaux qui disparaissent. Mais je sais que la manière dont on a pensé cette action et l'accompagnement qui a été fait des professionnels fait que les collègues instituts de l'école maternelle, même si ce dispositif disparaissait, la manière de travailler avec les parents ne serait plus la même. Et voilà une certaine liste peut-être de métiers flous qui ont besoin de soutien. Et peut-être une des pistes du soutien de ces professionnels, c'est d'avoir eux aussi des espaces de coordination et de réflexion collective, pas simplement en interne, mais aussi est-ce que tous les métiers intermédiaires de coordination sur un territoire ont du temps pour réfléchir ensemble? Et est-ce que ces temps-là sont légitimés et soutenus par les différentes institutions, ce qui n'est pas toujours gagné? La coordination de coordonnateurs de Saint-Priest a pendant longtemps été clandestine. Voilà, et je termine sur cette diapositive qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un outil qu'on a bricolé pour essayer de réfléchir ensemble entre coordonnateurs où on était. Et pour essayer de penser l'action, pas simplement les actions qui peuvent soutenir les enfants, mais aussi ce qui peuvent soutenir les parents et les professionnels. Et essayer de se poser cette question aux différents âges des enfants. Alors ces tranches d'âge, elles sont comme ça. Il nous a semblé que c'était intéressant parce que 06, il y a la question de la transition maternelle école élémentaire. 6-12, il y a la question de la transition avec le collège. Après, il y a la question de l'orientation. Vous voyez, on essaie de réfléchir à ces articulations-là. Et à chaque fois, essayer de se poser les questions, c'est quoi les problèmes et les difficultés pour les enfants, pour les professionnels, les différents professionnels, et pour les familles. Et pour traiter ces difficultés, soutenir les gens sur ces difficultés, qu'est-ce qui existe? Et qu'est-ce qui existe d'abord dans le droit commun, dans l'ordinaire du travail des uns et des autres? Est-ce qu'il y a déjà des gestes, des manières de faire, des organisations qui sont repérées? Et puis après, s'il y a des dispositifs, des actions expérimentales, financées par tel ou tel canal de la politique de la ville ou de la CAF ou de je ne sais quoi, est-ce qu'on peut interroger ces dispositifs expérimentaux pour voir comment ils peuvent dialoguer avec la manière ordinaire de travailler et éventuellement aider à avancer un peu, à modifier un petit peu ces manières de faire. Je vais m'en arrêter là et je vais leur céder la parole.
Merci Stéphane. Donc très rapidement, on va commencer un peu les choses un peu à l'envers. Je vais commencer par laisser la parole à Mehdi, juste me représenter donc au Saniken, coordonnateur REP à Saint-Priest, donc dans la banlieue est de Lyon, et je suis déchargé à temps plein. Et je crois que sur la question du partenariat, cette donnée elle est importante parce que notamment mon temps plein est menacé depuis 2 ans, et donc chaque année on est en train de se poser la question de savoir parmi mes missions lesquelles il faudrait alléger en cas de bascule à mi-temps, et cette question du partenariat en fait bien évidemment partie. Voilà, juste pour introduire le propos, puis on va rediscuter encore un peu ensemble. Je voudrais simplement d'abord laisser la parole à Mehdi, du coup.
Voilà. Donc bonjour. Donc déjà merci à Stéphane Hussein et puis à M. Picard de pouvoir m'accueillir aujourd'hui. Je m'excuse par avance peut-être du petit manque de préparation sur l'intervention, puisque c'est que hier soir que un déplacement professionnel ayant été annulé en raison des mouvements sociaux aujourd'hui que j'ai pu du coup venir assister. Donc je m'excuse si tout n'est pas forcément très clair, mais c'est important de le préciser. Et puis voilà, donc moi ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je vais présenter ou ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui, je le dis pour mon compte. Ça n'a aucune vocation à être ni généralisé, ni à être un dogme quel qu'il soit. C'est simplement le fruit de un peu plus de 10 années de travail sur de la coordination de projets, de la responsabilité associative, mais aussi en collectivité locale, donc dans le cadre du PRE, à des niveaux communaux, départementaux, régionaux, mais aussi à l'international. Donc voilà, et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a des mécanismes et des ressorts qui se ressemblent beaucoup, quel que soit le niveau où on intervient. Pour reprendre rapidement, de manière un peu générale, ce que disait Giuliano ce matin, sur ces 3 aspects, là, le métier flou, la professionnalisation, la question de l'institutionnalisation, ça pose des questions sur la fonction de coordinateur, mais ça a aussi un lien bien évidemment tout à fait direct sur les questions de partenariat. Quand on parle de métier flou, déjà le facteur temps, un facteur qui est difficilement maîtrisable. On a le temps, on va avoir le temps du projet. Voilà. Est-ce qu'on est en année civile? Est-ce qu'on est en année scolaire? Les partenaires en face, ils fonctionnent de quelle manière? Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à articuler. On a le temps des financements, puisque les financements ne tombent pas forcément toujours au moment où on souhaiterait les avoir, ou des fois ils tombent trop tôt, ou etc. Et puis effectivement, la question du temps que vous pouvez prendre à construire aussi, parce qu'on est souvent dans des métiers, enfin en tout cas dans une fonction de coordinateur, où on demande des accomplissements, des réalisations, mais tout ce temps, tout ce travail de partenariat qu'on va essayer de balayer, au regard de notre petite expérience là-dessus, ça aussi c'est quelque chose qui demande un investissement en termes de temps qui est important. Donc ça c'est une vraie difficulté à relever et sur laquelle il faut garder, en tout cas qu'il faut garder en tête. La question qu'on n'a peut-être pas trop abordée, mais qui moi, de par mon expérience, me paraît indispensable, dans cette question aussi du métier flou, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, quel intérêt est-ce que l'on a à travailler avec un tel ou un tel, et quel intérêt un tel ou un tel aura à travailler avec nous? Bon, c'est difficile, en tout cas, moi j'ai toujours essayé d'abandonner certaines idées, parfois même une certaine forme de militantisme, pour dire quelle est la position de la personne qui est en face. C'est ce que tu disais aussi un petit peu tout à l'heure, Stéphane, quand on dit se décentrer. Voilà, c'est de dire comment est-ce que je me mets à la place de l'autre, comment est-ce que je vais chercher l'information et comment je vais savoir quel est son intérêt à lui. Voilà, donc c'est aussi là où on est dans une approche un peu particulière, où on n'est pas que centré sur notre professionnalité à nous, mais aussi sur celle des autres. Donc je parlais de professionnalité, ça m'amène à parler de la professionnalisation, dont on a inquiété le deuxième point hein, ce matin. Donc là-dedans, on va avoir les savoir-faire, on va avoir les savoir-être, les savoirs. Alors je sais que ce vocable-là est pas forcément accepté par tous. Moi, je l'utiliserai parce qu'il répond bien à ce que, enfin à mon propos en tout cas. Aujourd'hui, les savoir-faire, on se rend compte que ben finalement, il y en a assez peu. On se pose tous la question, mais comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais intervenir sur la formation? Comment, voilà. Pour autant, je pense que c'est pas forcément là le point principal dans la fonction de coordination et notamment dans l'animation de partenariat, puisque ce qui va marcher à un endroit va pas forcément marcher à un autre. Donc au-delà de ça, pour moi, ce qui est important, c'est le savoir. On en revient à ce que je disais juste avant. Qui est-ce que j'ai en face de moi? Comment est-ce qu'il réfléchit? Quels sont ses intérêts à lui personnels, mais aussi ceux de son institution ou de son organisation? Et ce qui m'amène ensuite à dire, finalement, ce qui est important dans le rôle de coordination et dans l'animation du partenariat, c'est surtout le savoir-être. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'essayais de mettre en place, c'était de se dire, comment est-ce que je vais vendre mon projet? Il y a des termes qui peuvent être un peu choquer, mais malheureusement, c'est ça. Comment est-ce que je vais faire en sorte de faire comprendre à mon interlocuteur que ce que moi je peux proposer ou ce que je veux mettre en place va aussi répondre à certains de ses besoins? Voilà, ça me semble quelque chose finalement d'assez fondamental, et pour moi effectivement il n'y a pas une manière d'être coordo, il y en aura autant que de contextes dans lesquels on va se retrouver. Voilà. C'est aussi gérer différents types de relations. On parlait de relations horizontales et verticales, tu l'as montré tout à l'heure, et on en revient d'ailleurs à ce que je disais juste avant, comment se vendre. C'est comment à un moment donné effectivement on va aller voir les partenaires qui sont autour de nous pour essayer de construire des actions, mais c'est comment on va aussi avoir accès à sa hiérarchie, et là je parle du N+1, mais ça peut être le N+2 également. Comment nous en tant qu'individus on va se permettre de les mobiliser, de les mettre devant les choses qu'on pense en tout cas intéressantes à faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir infléchir des orientations? Alors c'est très compliqué hein, selon le milieu où on se trouve, mais en tout cas comment on a un rôle aussi de plaidoyer finalement. Et ça, moi je m'en suis rendu compte à Saint-Priest avec un changement d'équipe municipale, un changement de majorité, une majorité qui passe les Républicains, donc à droite, où on se dit, oulala, mon Dieu, les métiers du social, de l'éducation, qu'est-ce qu'on va ramasser, etc. Ça n'a pas été tout à fait vrai, puisque finalement, on a eu un engagement des élus quand on a su leur montrer que ce qu'on pouvait essayer de travailler ou ce qu'on pouvait essayer de mettre en œuvre, c'était aussi des problèmes repérés sur la commune, par des habitants de la commune ou par des gens qui travaillent avec les habitants de la commune. Donc finalement, je pense qu'il y a quand même un rôle, là où on se dit, voilà, le fait qu'il y ait assez peu de règles ou qu'il y ait assez peu de choses écrites sur la fonction de corps, sur comment faire le partenariat, ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi une opportunité de faire les choses peut-être un peu comme on les entend, et derrière d'aller promouvoir cette démarche-là auprès soit des partenaires, soit des responsables hiérarchiques. Et puis ça m'amène du coup à parler de l'institutionnalisation, parce que effectivement c'est lié à cet aspect-là. Comment est-ce que je vais aller mobiliser ma hiérarchie? En tout cas, moi c'était ça la question. On disait tout à l'heure, le cadre institutionnel, il a tendance à disparaître. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Donc là on rentre dans une conception qui va être peut-être un peu plus anglo-saxonne, bon, excusez-moi, j'en dis des gros mots, mais qui est la contractualisation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment donné on va pouvoir se mettre d'accord pour rédiger un cadre à notre intervention, pas un cadre forcément général, mais un cadre sur certaines actions ou sur certains projets. Donc pour moi, à la fois la fonction de cordeau passe par cette question de la contractualisation, mais aussi le travail partenarial dont on va parler tout à l'heure. Bon, tout simplement, quand on est tombé d'accord sur un projet à mettre en place, qui a pris quand même pas mal de temps, hein, notamment avec l'éducation nationale, notamment avec l'éducation nationale, puisque ces projets la concernaient directement, mais ça a pris du temps à mettre en place tous les acteurs dans la boucle. On s'est tous mis d'accord sur ce qu'on voulait faire. C'est passé par une phase où on a, il n'y avait pas de financement hein, forcément lié à ça. C'était pas une convention, c'était simplement de se dire, à un moment donné, mettons sur le papier quel est l'objectif de cette action particulièrement. Comment est-ce qu'on compte la mettre en œuvre, et surtout qui va faire quoi? Parce qu'on se retrouve après finalement très vite dans le boulot de coordo à prendre en charge ce qui est, on va dire, un petit peu général, et puis chacun se repose sur le coordo pour que les choses avancent. Donc à un moment donné, c'est aussi de pouvoir dire, attendez, ça va relever peut-être plus de votre compétence, tout ce qui va être par exemple la question de l'identification de certains bénéficiaires, tout ce qui va être la question de la sensibilisation des parents sur l'utilité d'un tel projet, ça c'est le rôle de l'école. Donc on avait effectivement un contrat qui liait les groupes scolaires, l'inspecteur de l'éducation nationale et le PRE, enfin le CCS en tout cas, l'élu de référence qui aussi était informé de ce projet. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on fait pas cette démarche-là d'aller solliciter les gens qui sont au-dessus de nous, vous vous rendez compte effectivement que ça peut prendre du temps pour qu'eux viennent nous voir. Donc il faut aussi pas hésiter à... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais hésité à aller pousser les portes, à solliciter des rendez-vous à la préfecture qui finance le PRE, d'aller voir les financeurs et de présenter les projets en amont et d'essayer de les mettre de son côté. Parce que finalement, le partenariat aussi, c'est un petit peu ça. C'est comment est-ce qu'on va attraper les gens. Donc ça implique aussi de se délester de parfois ça peut être des inquiétudes, mais ça peut être aussi des représentations ou des constructions. Voilà, mentales qu'on peut avoir, c'est de se dire je laisse ça de côté et j'essaie de voir comment moi je peux atteindre mon objectif en fonction de ce que les autres aussi ont comme objectif. Voilà. Donc je vais pas prendre plus de temps là-dessus, mais ça me semblait important de dire que ce qu'on a réfléchi, enfin ce que vous avez en tout cas discuté ce matin, ce que disait Gilles Janot sur la fonction du coordinateur, on retrouve aussi beaucoup de ces éléments-là dans la construction des partenariats. Donc je vais te laisser enchaîner, puis après voilà pour les quelques éléments là sur le corps de REP, et puis ensuite on parlera des projets peut-être.
Oui, voilà, on a eu un peu le point de vue du partenaire. Là, l'idée sur l'intervention, c'est un peu d'expliquer dans les grandes lignes en quoi consistait mon activité en particulier, celle du coordo dans ce partenariat avec le PRE, la façon dont on a pu travailler ensemble et ce sur quoi ça a permis un petit peu d'aboutir, tout en essayant à chaque fois de voir quelles ont été pour moi les questions qui se sont posées, les tensions éventuelles également, et puis comment est-ce que on se dépatouille avec tout ça. Alors j'ai donné quelques éléments de contexte tout à l'heure. Je crois que je vais continuer sur cette ligne-là en disant que en plus du temps plein de coordination, j'ai la chance de travailler sur un réseau qui s'étend sur une seule commune et d'être sur une circonscription également qui est une circonscription ville, ce qui a l'immense avantage de pas avoir à démultiplier le nombre d'interlocuteurs et le nombre de partenaires potentiels, sachant que sur une commune en politique de la ville, ces partenaires-là sont pléthores, que ce soit dans le champ socio-éducatif notamment. Je tiens à dire aussi que j'ai hérité moi d'une situation. Hein, je suis pas arrivé sur le poste avec le devoir de tout construire. Hein, je suis loin d'être parti de zéro, et ça c'est pour par rapport à ce qu'on a pu entendre hier sur le fait que certains collègues ont du mal à se sentir légitimes à aller toquer à la porte du partenaire sans avoir un certain aval de l'institution. Voilà, c'est moi je suis arrivé, les choses étaient déjà installées et relativement claires pour le cordeau que je suis. Hein. Ça a d'ailleurs été une de mes premières missions lors de ma rentrée de prise de fonction. C'était commence par aller voir chacun des partenaires et commence à discuter avec eux des choses qui sont déjà en place, de la façon dont on travaille et des perspectives que tu vas pouvoir développer avec eux. Voilà. La question du partenariat aussi, quand on est habitué à un public d'élèves de CM2 d'une dizaine d'années, c'est aussi un changement radical à la fois de posture et d'interlocuteur, ce qui fait qu'il y a un nécessaire temps d'acculturation. Voilà, Mehdi l'a un peu décrit, mais comprendre quels sont les champs d'intervention de chacun, quelles sont les institutions de chacun, quelles sont les ressources qu'ils peuvent représenter, quelles sont leurs contraintes aussi. Tout ça, c'est des choses qu'il faut petit à petit maîtriser, parce que entre les PRE, les ASV, le CUX, le CLSPD, enfin bon, voilà, tout un tas de cycles, tout un tas d'institutions, parfois imbriquées. C'est un peu tout ça qui est... Pardon ?
Des dispositifs.
Et des dispositifs, oui, puisque des institutions qui sont étroitement imbriquées, et il faut réussir à s'en faire une image. Et puis ce travail au niveau du partenariat, il implique aussi pour le coordonnateur de prendre un peu de hauteur par rapport à l'école, de voir comment elle s'inscrit dans le quartier, sur la commune, et puis elle nous amène forcément à voir les choses de manière plus globale, parce que quand on travaille avec les différents partenaires et quand on travaille sur un réseau d'éducation prioritaire, les problématiques, elles touchent autant à la petite enfance et à la primo-scolarisation qu'à celle de l'orientation en bout de course, et que du coup l'orientation et puis les questions relatives au décrochage, donc tout ça, c'est des choses, j'aurais tendance à dire qu'au départ, en rentrant, moi, issu du premier degré, en entrant dans le partenariat, j'étais sans doute moins au clair sur l'orientation professionnelle notamment et les questions du décrochage que sur des questions propres au premier degré. Voilà. Alors, comment on peut s'aider, comment on peut s'outiller pour travailler avec les partenaires? La première des choses, effectivement, puis c'est quelque chose qui tient un peu à cœur ici au Centre Alain Savary, c'est d'aller regarder au niveau de la prescription. Sur la prescription, le référentiel, vous le connaissez aussi bien que moi, hein, les partenaires sont de deux ordres, hein. C'est effectivement d'abord les parents et puis ensuite les partenaires du territoire, même si je crois que dans le référentiel seul le PRE est nommé et d'autres institutions, d'autres dispositifs ne le sont pas. Le PRE est le délégué du préfet avec qui effectivement on a travaillé et l'un et l'autre, qui est présent dans la salle, qu'on salue. Voilà. Avec qui on a travaillé l'un et l'autre et qui représente aussi une ressource, hein, comme disait Mehdi, pour défendre ces projets, notamment quand ils vont à l'encontre de certaines orientations des préfectures ou des institutions concernées. C'est dans le référentiel, donc quelque part ça légitime aussi notre action et le temps qu'on passe en réunion, parfois pas toujours très fertile, mais en tout cas voilà, on nous incite à y aller. Et puis je suis aussi allé voir dans la circulaire du 4 juin, hein, qui cadre la refondation de l'EP, on nous fait un petit renvoi vers des conventions interministérielles, donc pour votre culture personnelle, je vous invite à aller voir, même si c'est pas forcément des plus aidants, ça permet notamment de voir que au niveau ministériel il y a des engagements forts, et notamment pour tout ce qui concerne la politique de la ville. Mais finalement, c'est pas très aidant, quoi. Alors le référentiel nous dit coopérer utilement, donc ça c'est une nuance qui est de taille, hein. C'est des choses qui nous, au niveau institutionnel, nous ont été peut-être un peu reprochées en nous disant vous coopérez beaucoup, vous avez beaucoup de partenaires, vous avez beaucoup d'actions partenariales, mais dans tout ça, on voit pas tellement la place du pédagogique et des apprentissages des élèves. Donc reposez-vous la question de ce que c'est que de coopérer utilement. Voilà. En tout cas, nous, la coopération utile, on l'envisage sur l'équilibre qu'on peut trouver entre les ressources et les contraintes que chaque partenaire peut imposer. Et puis, c'est des questions que l'on se pose pour soi, mais qu'on doit avoir en tête, pour des actions qui ont aussi pour nous vocation à impacter le travail des collègues, quoi. À quel moment aussi ce que l'on travaille avec un coordo dans un collectif plus ou moins élargi, peut s'inscrire dans la réalité du terrain et notamment des enseignants de la classe. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va essayer d'évoquer par rapport à au PRE, puisque sur les tensions, hein, en général aussi il y a quelque chose d'important pour le coordo, on l'a dit hier, effectivement l'objectif de la refondation c'est quand même la réduction des écarts de réussite entre élèves issus de l'éducation prioritaire et puis les autres. Voilà, et on se pose aussi souvent la question de en quoi tel ou tel type d'action, en quoi tel ou tel type de partenariat agit et influe réellement là-dessus. Alors on fait quand même les choses parce qu'on est persuadé qu'elles ont du sens, de la cohérence et de la pertinence, mais mine de rien, voilà, aujourd'hui il y a un objectif qui est clair. Pardon ?
C'est pas évident pour tout le monde.
Voilà, tout à fait, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà. De la même manière, quand on travaille, l'école c'est souvent un enjeu pour les partenaires, un enjeu fort, voilà, et du coup on est aussi sollicité, mobilisé sur un grand nombre d'objets de travail. Et on n'a pas effectivement la possibilité d'aller nécessairement sur tout, parce que il faut penser derrière à ce que ça va engendrer comme contrainte pour toutes les personnes concernées. Voilà. Alors, J'en avais d'autres, hein. La question c'est aussi comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des acteurs autour d'une question et autour du partenariat, notamment avec le PRE, comment est-ce que ça reste pas confidentiel à un travail entre co-ordo, mais comment ça comment c'est diffusé, comment ça fait du sens au niveau des équipes, et comment est-ce que on arrive à pointer pour les collègues l'intérêt de s'appuyer sur les dispositifs. Et du coup là on va un peu basculer, on va être un peu plus. On a donné des éléments d'ordre général. Là, ce qui est important, ce qui nous semblait important, c'était aussi de vous décrire et de vous illustrer très concrètement quelle forme ont pris nos modalités de travail, conjointes dans le cadre de ce partenariat avec le PRE. Un partenariat, en tout cas, une fonction. Enfin, comment dire. Des tâches et des missions qui ont évolué pour moi, pour le corps de REP que je suis, en fonction de l'évolution aussi du dispositif de programme du programme de réussite éducative de la commune, parce que c'est un dispositif qui date de 2008 et jusqu'à pas très longtemps, on fonctionnait avec une équipe une coordinatrice du PRE, de référente de parcours, et il y avait un certain train-train qui s'était installé, et finalement assez peu de liens entre les écoles et les orienteurs, les enseignants, les directeurs, qui orientaient des situations vers le PRE, et le suivi et l'accompagnement de ces élèves-là dans le cadre du PRE, avec entre le PRE et l'orienteur. Moi, au départ, la mission qui m'était affectée, c'était notamment de participer à toutes les instances liées au PRE, que ce soit les comités de pilotage, les comités de suivi, etc. Et très vite, j'ai été un petit peu happé à l'intérieur de ce qu'on appelle les comités pluridisciplinaires. Donc, pour ceux qui connaissent bien le dispositif ou équipe pluridisciplinaire, ça dépend l'endroit où on se situe. Ça parle pour ceux qui travaillent avec le PRE, parce que c'est des orientations nationales, mais ces équipes-là, ces comités de pluridisciplinaires, sont des lieux qui rassemblent des professionnels, la famille de l'enfant qui a été orienté, le PRE évidemment, et puis il fallait bien que soit présent à ces commissions un représentant de l'éducation nationale. Dans le cadre de ces comités, en fait, on décide des actions à mettre en place pour venir en appui de l'enfant, du jeune et de nos élèves. Donc moi, je me suis retrouvé dans situation finalement à être une caution d'éducation nationale. Voilà, j'étais là, mais la pertinence se posait parce que je ne connaissais ni les familles, ni les situations des élèves, pas forcément très bien les écoles qui orientaient, et donc j'étais là pour faire plaisir aux partenaires, mais finalement à 30 réunions annuelles de comités pluridisciplinaires, vous voyez bien que quand on doit faire l'équilibre entre les ressources que ça m'apporte et les contraintes que ça me pose, voilà, ça dysfonctionnait. Et quand j'évoquais tout à l'heure la question de l'importance pour tous les acteurs d'être concernés par ce qui se passe dans ce dispositif, ça a été aussi une des évolutions avec l'arrivée de Mehdi, parce que tu peux peut-être donner le contexte un peu de ton arrivée au niveau du programme de réussite éducative.
Bon, disons que c'est vrai qu'il y avait une volonté, pour le dire très très rapidement, une volonté de l'institution de retravailler ces questions justement de partenariat, d'essayer de voir comment est-ce que le PRE pouvait sortir de un peu de sa consanguinité. Je suis désolé, mais c'est un petit peu ça. Je prends les élèves qui viennent majoritairement qui sont envoyés orientés majoritairement par l'éducation nationale. Je les mets dans un coin, je leur triture le cerveau et puis je les rebalance dans l'école et tout ira mieux. Donc l'idée, c'était un petit peu de se dire comment est-ce que on va aussi essayer de trouver un étayage, alors parfois à l'extérieur de l'école, mais aussi parfois à l'intérieur de l'école, pour aider ces enfants en difficulté. Et donc, ce qui a nécessité effectivement un travail, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, de prendre son bâton de pèlerin, d'aller voir qui est sur le territoire, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs orientations, quelles sont leurs priorités aussi, et puis autour de ça, d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait construire des partenariats. Donc ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, au bout de 2-3 mois, j'ai organisé une première journée à l'attention vraiment de tous les intervenants qui étaient sur le territoire, hein, éducation nationale, structures socio-culturelles, socio-éducatives, les institutions type conseil général, etc., etc. Donc c'est avec à peu près une cinquantaine de personnes qu'on a travaillé sur aujourd'hui quelles sont les principales difficultés que vous avez identifiées sur le territoire avec les publics, enfin pour les publics avec lesquels vous êtes en relation. Donc l'idée, c'était de pouvoir croiser un petit peu tous ces regards et d'établir, on va dire, trois ou quatre grandes priorités qui ont ensuite fait partie d'un plan stratégique pour le PRE qui a été ensuite diffusé à l'ensemble des partenaires. Donc ça a eu l'occasion, enfin ça a eu le bénéfice de faire prendre, en tout cas d'impliquer déjà les gens de manière, on va dire, un peu informelle, puisque c'était un temps de réunion, on a mis en place des groupes de travail, on a une restitution pour essayer de voir tout ça. Donc les gens sont devenus acteurs finalement du PRE, puisque l'objectif était bien de dire quelles sont les orientations que l'on peut donner au PRE. Et en plus, ça a derrière aussi permis de les remettre, on va dire, dans une démarche de dire oui, on va peut-être pouvoir travailler avec le PRE. Donc à partir de ce plan que moi ensuite j'ai diffusé à tous les partenaires qui présentaient nos grandes orientations, là tout le monde a pu se dire ah bah tiens, le PRE peut intervenir sur ça, je vais peut-être pouvoir aller voir avec eux. D'autres se sont dit moi, vous, ce que vous avez mis sur le papier, ça m'intéresse pas. Dont acte, mais au moins ça a permis déjà d'éclairer la situation sur avec qui je vais pouvoir aller travailler. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base, je le disais tout à l'heure, hein, l'intérêt des gens, les besoins, enfin ça peut être des besoins d'ailleurs en termes de financiers, mais autres aussi, c'est de dire, moi ça a été l'occasion d'identifier les premières personnes derrière avec qui j'allais pouvoir mettre en place des actions. Voilà.
Alors sur le cadre encore là, par rapport à l'arrivée de Mehdi, c'est que bon, moi je le dis tranquillement, mais c'est vrai que le PRE était un petit peu sinistré, quoi. C'est-à-dire qu'on avait constaté davantage d'écueils que de réussites, voilà, des parcours stéréotypés, quelles que soient les situations des élèves, un lien inexistant une fois l'orientation de l'enfant faite vers le PRE, des liens inexistants entre le PRE et l'école, voilà, des choses comme ça. Et donc il y a eu un travail de restructuration aussi des instances, c'est-à-dire que en amont du comité pluridisciplinaire, il y avait aussi l'idée que qu'importe la situation, orientée vers le PRE, le PRE allait nécessairement la prendre en charge, quand bien même il n'y avait pas forcément d'action proposée en réponse aux besoins repérés, ou alors avec des parcours à durée, je dirais, indéterminée, au point que les étayages devenaient des béquilles, que les béquilles devenaient des prothèses, et que ces prothèses, à un moment donné, elles chutaient brutalement, soit en raison du cadre, des parcours en temps limité, soit par la fatigue des acteurs et en particulier du jeune et de sa famille. Donc il fallait un peu reprendre tout ça, et notamment ne pas faire du PRE la première corde qu'on allait solliciter, notamment au niveau de l'éducation nationale, parce que c'était bien souvent ce qui était fait quand on était face à un élève avec lequel on n'y arrivait pas forcément, ou on semblait ne pas avoir trop de prise. On savait qu'on avait cette ressource-là, et les enseignants venaient tirer la sonnette d'alarme, mais sans nécessairement avoir eux-mêmes fait des choses au préalable, mis des choses en place avec l'élève. Donc ce qui s'est passé au moment de l'arrivée de Mehdi, c'est qu'on a aussi modifié les structures. Alors pas moi, lui évidemment, mais l'idée, c'était quand même en amont des comités pluridisciplinaires, pouvoir étudier les situations de manière totalement anonymée, et en essayant de déterminer des critères objectifs de oui, cette situation relève d'un suivi PRE et celle-ci non. Voilà, pour se prémunir contre tout risque de discrimination.
Ce qu'il faut préciser, c'est que dans ces commissions d'entrée, on avait des représentants à la fois de l'éducation nationale, bien sûr de la mairie, du secteur jeunesse, des travailleurs sociaux, ce qui permettait aussi d'avoir ce regard croisé sur telle situation. Et quand on refusait, ça a été le cas, c'est arrivé en tout cas, quand on refusait l'entrée d'une situation dans le PRE, elle était effectivement notifiée à la famille, à l'orienteur, mais il y avait surtout des solutions qui étaient proposées derrière, en disant voilà, il y a un premier filtre à passer qui sera, je sais pas, le conseil général pour une aide financière ou autre, mais en tout cas on laissait jamais l'orienteur ou la famille sans solution derrière. L'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était simplement de dire voilà nous ce sur quoi on peut travailler, qui avait été défini encore une fois collégialement, et voilà pourquoi cette situation ne correspond pas. Souvent d'ailleurs, c'était un report, c'était de dire il va y avoir certaines choses à régler dans telle ou telle situation, au niveau du logement de la famille, parce que voilà, on peut dire voilà, le gamin fait pas ses devoirs, donc le PRE va mettre en place une aide aux devoirs, mais si le logement ne permet pas d'avoir un coin qui est au calme pour faire les devoirs, si un intervenant peut pas être présent à domicile parce que il y a 15 personnes qui sont dans un tout petit logement, ça pose déjà une première question. Donc voilà, c'était un petit peu de travailler là-dessus et d'essayer surtout de voir quelle était la première intervention la plus pertinente à avoir en fonction de la situation qu'on avait. Et ça s'est joué justement parce qu'on a invité l'ensemble de ces partenaires-là à venir travailler sur ces situations, et puis aussi encore une fois parce qu'on avait clairement défini notre cadre d'intervention.
Voilà. Donc toujours par rapport à cette commission d'entrée, je parlais tout à l'heure d'implication des différents niveaux, hein, que ce soit le coordo, l'IEN, le principal, les enseignants, et que tout le monde sache pourquoi le PRE est là et ce qu'on peut lui demander, et ce que ça implique aussi de faire appel à lui. Il y a eu aussi, je tiens à le dire, un engagement fort de la part de l'IEN qui... sans qui ça n'aurait pas été possible en l'état. C'est-à-dire que moi j'étais la caution éducation nationale dans les comités pluris. L'IEN a bien vu que c'était pas ce qui était le plus pertinent, et on a pu travailler ensemble à déterminer un protocole pour les collègues du primaire qui souhaitaient orienter vers le PRE, avec l'obligation pour eux, enfin quelque chose d'imposé, alors pour le coup très très verticalement, mais du coup c'était loin d'être incohérent, de permettre aux enseignants ou à défaut aux directeurs d'école d'être présents au comité pluri qui se déroule sur du temps scolaire. Donc ça voulait dire que l'IEN autorisait l'enseignant à répartir ses élèves et à venir assister à cette réunion, voilà, de sorte qu'il y ait un représentant et l'orienteur vers le PRE qui soit présent et qui puisse apporter lui aussi son regard, son expertise. Et ceci aussi dans la durée, quoi, pas que à l'entrée, mais en essayant de faire du lien par la suite. Et ça, c'est notamment le travail que Cyrielle, la référente de parcours, s'attache à faire. Donc voilà, il y a eu cette réorganisation là. Il y a eu aussi des modifications au niveau préfectoral, avec des orientations qui ont un peu changé au niveau du PRE, avec une certaine pression à l'évaluation scolaire, d'aller voir, regarder finement quel était l'impact du PRE sur les résultats scolaires des élèves. Et du coup, ce rapprochement, il s'est aussi fait par ce biais-là. Tout ça pour dire que les orientations qui viennent aussi du haut peuvent ou pas permettre de travailler plus collectivement. Donc après, voilà, il y a eu on a essayé de faire ressources vraiment dans les deux sens. Le PRE, en principe, on est sur de l'accompagnement individuel d'élèves, et on a dit que les actions que proposait le PRE soit avait périclité, soit n'était plus très pertinente. Ce dont on se rend compte, c'est que la demande est très souvent portée effectivement sur une aide au devoir. Sauf que le PRE, c'est pas Acadomia, et que cette question-là, nous on l'avait aussi travaillé au sein du réseau, celle du travail personnel de l'élève. Donc plutôt que qu'aide au devoir, on a balisé une action accompagnement à la scolarité, très différente de ce qui se faisait précédemment dans le PRE. C'est-à-dire que précédemment, un vacataire, un accompagnant pouvait être nommé pour l'enfant et venir pendant des semaines et des semaines faire les devoirs avec l'enfant. Sauf qu'au bout d'un moment, l'accompagnement s'arrête, et que s'il n'y a pas de choses qui ont été travaillées à ce moment-là avec l'enfant, avec la famille, pour les outiller, bah, finalement, c'était pas pertinent. Donc là, l'idée, c'était d'arriver, par exemple, sur l'accompagnement à la scolarité. Il y a cette demande-là qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On est sur une durée d'accompagnement limitée, une douzaine de séances, avec des objectifs qui touchent pas simplement le scolaire, mais qui touchent aussi la méthodologie de travail, plus que les contenus et plus que de savoir faire la dictée de 10 mots pour le lendemain. Hein. Des apports méthodaux, un travail aussi sur la parentalité, puisque c'était une des orientations fortes au niveau du PRE. Donc travailler entre le vacataire, l'enfant, mais aussi la famille au moment de ce temps-là. Et puis aussi tout un travail pour l'après. Qu'est-ce qu'on fait une fois que ce temps d'accompagnement à la scolarité, il se termine dans le cadre du PRE? Et là, ça a été le travail de Médic, d'essayer de travailler avec les centres sociaux pour réserver, par exemple, des places sur les temps d'accompagnement à la scolarité, de sorte à ensuite accompagner la famille vers un autre dispositif de droit commun. Voilà.
Lesquels centres sociaux nous ont réservé des places suite à un beau travail partenarial, mais parce que il était clairement indiqué que dans les appels à projets du CLAS qui finance, donc c'est la CAF hein, qui finance ces centres sociaux sur les groupes d'accompagnement à la scolarité, que le partenariat avec le PRE doit être démontré. Donc c'est là où je disais aussi tout à l'heure, il faut voir quels intérêts avaient les centres sociaux en face de nous, puisque par ailleurs sur d'autres actions de quasiment du même type où là on voulait intervenir en financement direct, on n'a jamais réussi à mettre des choses en place. Donc c'est là où je dis, c'est toujours important de savoir qui on a en face, quelles sont ses contingences et quels sont ses intérêts à travailler avec vous.
On s'est très largement appuyé sur un travail qui avait été mené au niveau du réseau d'éducation prioritaire précédemment, avant que j'arrive sur le poste de coordination. Il y a eu un important travail autour de la question du travail personnel de l'élève, ce qu'il peut être, ce qu'il ne doit pas être. qu'est-ce qu'on met finalement derrière tout ça, quels sont les problèmes que rencontrent nos élèves. Et on était arrivé à produire un certain nombre d'outils. Alors il y avait eu une grille d'harmonisation des pratiques pour l'élémentaire, quelque chose qui devait se décliner ensuite pour le collège, mais qui est resté un petit peu lettre morte. Bien sûr, tout un tas d'apports effectivement théoriques et pratiques, et notamment un regard porté spécifiquement sur la nature des tâches qu'on demande ordinairement aux élèves dans le cadre du travail personnel ou des devoirs à la maison. En fait, on s'est appuyé très largement sur les ressources qui avaient été produites à l'époque pour déterminer ce projet d'accompagnement à la scolarité dans le cadre du PRE, c'est-à-dire en reprenant avec les accompagnants notamment toutes ces questions-là, c'est-à-dire que j'ai été amené, moi, Mehdi m'avait invité à venir, c'est un bien grand mot, hein, mais former finalement les accompagnants, qui sont souvent des étudiants, alors qui ont le profil hein, généralement sciences de l'éduc, ou qui ont ce projet-là de devenir enseignant bien souvent, et de venir discuter avec eux de ce qu'on peut faire, avec l'idée que effectivement, le travail personnel au maximum doit être préparé en classe, donc vous n'êtes pas tributaire de la réussite de l'élève à la tâche demandée. Sur quoi vous pouvez les aider, sur quoi on va travailler, sur l'automatisation par exemple, sur le bilan de connaissances. Enfin, on avait déterminé comme ça 5 directions de travail spécifiquement scolaires pour travailler ça. Mais voilà, on s'est appuyé sur des choses finalement sur des choses existantes et qui avaient montré à la fois un intérêt pour les enseignants qui s'en étaient bien emparés et puis un intérêt aussi pour les élèves et les familles, puisque ça a eu le mérite de clarifier un certain nombre de choses. J'ai dit que moi j'étais intervenu auprès des vacataires, mais je suis à chaque fois intervenu sur des temps avec les vacataires, les familles et les jeunes, pour justement repréciser les objectifs de ce travail-là d'accompagnement à la scolarité. Qu'est-ce qui était attendu dans ce cadre-là de d'accompagnement à la scolarité avec le PRE
Ouais, peut-être pour parler aussi des autres acteurs, puisqu'c'était aussi un petit peu la question. Ce qu'on s'était dit, c'était que le temps de en tout cas de au devoir, il doit être de toute façon restreint, il doit être limité. Voilà, on ne doit pas y passer 3 heures. Les centres sociaux, notamment dans leur groupe d'accompagnement à la scolarité, travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un temps qui était vraiment centré sur les devoirs et puis un temps qui était plus, on va dire, derrière un peu ludique, où on pouvait éventuellement convier les parents aussi au sein de la structure. Donc on avait en gros une demi-heure à trois quarts d'heure de temps aux devoirs et puis après trois quarts d'heure d'atelier sur des activités qui pouvaient développer des compétences transposables dans les enseignements ou dans l'acquisition des connaissances. Donc ce qu'on a voulu faire dans l'idée de la continuité des parcours, de dire voilà, les gamins, une fois qu'ils sont passés par l'accompagnement individuel au sein du PRE, on peut les orienter vers les structures de proximité qui pratiquent ça. On a demandé aussi à nos vacataires d'avoir un temps d'intervention qui est à peu près similaire, une demi-heure à trois quarts d'heure sur les devoirs, et puis ensuite de pouvoir proposer en fonction de la situation de l'enfant et de ses difficultés des activités qui ne sont pas forcément du scolaire, mais qui en tout cas permettent de, encore une fois, développer ses compétences. Ça donnait aux enfants une certaine habitude de travail qui reconnaissaient ensuite quand ils passaient sur les structures de quartier. Donc c'est peut-être aussi là le travail de partenariat. Simplement dire qu'on a été dans un contexte à Saint-Priest peut-être assez favorable, parce qu'il y a une vraie tradition du partenariat, il y a énormément de partenaires potentiels qui existent sur le territoire, et c'est pas le cas sur forcément toutes les communes. Mais moi ce que je retiens, c'est que le travail en partenariat, déjà il commence pas à 25 autour d'une table et de dire quel projet on va pouvoir mettre en œuvre. Moi j'ai toujours œuvré de la manière inverse, c'est-à-dire que je suis allé voir les gens de manière plutôt individuelle avant ensuite de les réunir et de les mettre devant le fait qu'ils avaient aussi des intérêts communs à travailler. C'était le cas du club de langue, c'est pas grave, on en parlera peut-être une autre fois. Mais ce que je conclurais là-dessus, c'est vraiment de savoir qui on a en face de nous, quel discours ils tiennent. Enfin, si vous parlez pas du sens aux travailleurs sociaux, ils vous écouteront pas. Il faut réussir à mettre parfois même sa personnalité propre un petit peu au second plan et réussir à s'adapter. Quand on parlait de métier flou tout à l'heure, c'était un peu ça. Et quand on parle du partenariat aussi, c'est ça. Voilà.
Ouais, voilà. Moi, pour conclure, hein, sur bon, voilà, le bilan que je peux tirer de 4 années de travail avec les partenaires. L'idée, c'est, à mon sens, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il faut, ben, je l'ai déjà dit, mais qu'il y ait une connaissance, et ça rejoint ce que dit Mehdi, et une interconnaissance des différents acteurs aux différents niveaux, et autant que possible une cohérence dans les discours des uns et des autres. Parce que en fait, on s'oppose souvent à des conflits de logique, hein, entre opérateurs de terrain, entre ceux qui décident et ceux qui financent, et c'est pas toujours simple. On a évoqué le PRE et les actions individuelles. Mehdi a beaucoup travaillé à essayer de développer des actions collectives, et notamment dans les écoles. Hein, il a parlé du club de langue, on pourra en rediscuter, mais il a une action aussi trio gagnant d'ateliers parents, enfants, enseignants. Voilà des choses comme ça qu'il a dû batailler pour faire passer au niveau des décideurs. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure lorsque je disais que avec l'appui de l'IEN et avec l'engagement fort de l'IEN, on a pu quand même résoudre des problèmes de cohérence. C'est que voilà, le partenariat, de notre point de vue et du point de vue de l'institution, faut pas qu'elle soit considérée comme une prestation de service. C'est un écueil auquel on peut pas couper, et ça rejoint du coup le fait qu'il faut que les acteurs et notamment les enseignants et les directeurs soient au clair avec ça. C'est que voilà, dans le partenariat, on fait avec, on fait ensemble, et que on délègue pas le traitement d'une question au PRE parce que c'est la réussite éducative, le décrochage au CLSPD parce que c'est la prévention et de la délinquance, voilà, ou tout ce qui touche à l'éducation et à la santé, on délègue pas à la santé ville parce que c'est leur champ d'intervention, mais il faut faire avec. Voilà, merci.